Eh bien, je vais juste commencer par prier. Eh bien, Jésus, merci. Merci parce que c'est nous qui sommes honorés d'être en ta présence. C'est toi qu'on veut applaudir ce matin. Et Jésus, je prie que tu sois le bienvenu parmi nous. On a dit que tu étais le roi, et là où ton règne vient, c'est que le roi est là. Et que vraiment tu sois roi dans nos cœurs. C'est ma prière ce matin pour mon propre cœur, mais que ça puisse être pour chacun de nous, qu'on te laisse l'autorisation de rentrer là où on ne te laisse pas rentrer d'habitude. Que tu viennes toucher ce qu'on ne veut pas lâcher. Et Seigneur, merci parce que tu es là et tu vas nous parler ce matin. Sois le bienvenu. Et je crois que toi aussi, tu es le bienvenu. On dit sois le bienvenu à Jésus, mais Jésus, il te dit sois le bienvenu. Et qu'importe ce que te dit ta conscience ce matin, ou ce que tu as fait cette semaine, ou même hier, Seigneur, il te dit tu es le bienvenu ce matin, il veut te parler. Qui part en vacances cet été ? On lève la main. Il y a quelques chanceux. Le reste, vous êtes encore plus chanceux, vous travaillez, c'est trop beau. Et moi, je vais pas forcément partir en vacances, mais quand je pars en vacances, c'est toujours un défi parce que dans mon parcours personnel, je suis encore le seul chrétien de ma famille. Et de partir en vacances, c'est d'aller voir du coup des amis ou de la famille qui est pas forcément chrétienne. Et j'ai toujours ce cœur-là de témoigner et c'est pas toujours simple. Quand je me suis converti, j'ai pris mon papa, ma maman dans les yeux. Je leur ai dit, bah voilà, je suis devenu chrétien maintenant. Et puis Jésus, il fait ci, il fait ça, il est comme ci, il est comme ça. Et c'est comme s'il y avait quelque chose d'imperméable sur leurs oreilles. Et ça les touchait pas et même ça les énervait plus qu'autre chose. Et ce qui a débloqué le cœur de ma maman, par exemple, c'était pas les mots, c'était les actions, c'était la vie, c'était le témoignage. Et quand elle a vu ce que Dieu faisait, là, ses oreilles se sont ouvertes et ça a parlé plus que ce que je pouvais lui dire moi sur Dieu. Et j'avais juste à cœur de commencer en disant qu'on va sûrement être des témoins cet été. Et des fois, on ne sait pas comment témoigner. Et y a quelque chose qui parle plus fort que les mots. Il y a quelque chose qui parle plus fort que les mots. C'est une arme que Dieu nous a donnée. Elle est puissante pour amener son royaume et pour changer les mentalités. Mais c'est une arme dont on ne parle pas trop souvent. Cette arme, elle s'appelle l'intégrité. Le titre de ce message, c'est le témoignage silencieux de l'intégrité. Là, on va définir ensemble c'est quoi l'intégrité. Selon le dictionnaire, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière, ou l'honnêteté, la probité absolue. Donc l'intégrité, on peut l'appliquer à une chose, à un objet. Mais souvent, on l'applique à une personne, et la définition de l'intégrité d'une personne, l'intégrité se définit comme une valeur morale qui sert de référence et guide nos choix et nos actions. Elle suppose une notion d'honnêteté. Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter, dont les choix de valeur sont fiables et stables, et cela dans la durée. La définition selon la Bible, la véritable intégrité, c'est simplement vivre selon ce que Dieu nous dit. L'intégrité, c'est baser nos paroles et nos actes sur les principes, les vérités et la volonté de Dieu. Peu importe les conséquences et le prix à payer. Être intègre, c'est être fidèle à ce que l'on est réellement, ce que Dieu dit de moi, ce qu'il a fait de moi, sans jamais aller à l'encontre de ses principes. Et le mot intégrité, en hébreu, il peut être traduit par entier, quelque chose d'entier, de plein. Et donc l'intégrité, c'est arrêter de jouer un rôle, arrêter d'entretenir des faux soi, être vrai, être entier. Pas de décalage entre ce que je pense, entre ce que je dis, entre ce que je fais. Bon voilà, définition de l'intégrité, j'espère que on saisit un peu mieux ce que c'est. J'ai une deuxième question pour vous. Qui est ici à Grenoble, dans la région, et n'est jamais aller une seule fois faire une randonnée dans la région? Ok. Il y en a 3-4. Ok, ça veut dire que la grande majorité, vous êtes déjà allé marcher, vous avez déjà fait de la rando ici, donc vous savez ce que c'est. Et donc, l'exemple que Dieu va nous donner ce matin, il va forcément nous parler. L'intégrité dans la Bible, c'est comme un chemin, c'est comme une marche, c'est comme une randonnée. Et c'est une image qui est profondément biblique. La première fois qu'on a le mot intégrité dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse 6. À propos de Noé, Genèse 6, verset 9, voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste, intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Donc on a vraiment la notion de intègre et marcher avec Dieu. Proverbe 19, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Et on a plus de 30 passages dans la Bible qui relient la notion d'intégrité avec la notion de marcher, d'avancer. Et donc là, c'est le chemin de l'intégrité dont on va parler aujourd'hui. Et c'est comme si là, voilà, il y a le grand chemin de l'intégrité, il est devant nous, pour donner une petite illustration. Et le texte central, il y a tellement d'endroits qui parlent d'intégrité dans la Bible, parce que c'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu. Et il nous a donné plein d'exemples de vie dans la Bible, où on voit des hommes et des femmes qui manifestent l'intégrité. Mais celui qui me marque le plus et qu'on va prendre ensemble aujourd'hui, il se trouve dans Genèse 39, c'est l'exemple de Joseph. Donc pour ceux qui connaissent pas peut-être la Bible, peut-être c'est la première fois que vous venez dans une église, vous avez jamais entendu parler de Dieu, ou peut-être c'est quelque chose que vous connaissez. Mais pour redonner un peu de contexte, Dieu, il a choisi un homme qui s'appelle Abraham pour en faire le père d'une multitude et d'un peuple dans lequel Dieu va se manifester et avec lequel ils vont pouvoir être en relation avec Dieu. Et Abraham, il suit Dieu, il a plusieurs enfants et son arrière-petit-fils, il s'appelle Joseph. Et Joseph, il fait partie d'une grande fratrie. Et ils sont 12, et il est un peu particulier, Joseph, parce que c'est le préféré de son papa. Et si vous avez grandi avec des frères et sœurs, vous savez peut-être ce que c'est, d'être dans une grande fratrie et d'avoir de la jalousie, de la rivalité, etc. Et bien Joseph, il sait exactement ce que c'est, parce que tous ses frères, ils vont être tellement jaloux et avoir tellement de rancune contre lui, qu'ils vont vouloir le tuer. Mais dans ses frères, il y en a quand même qui sont un peu moins radicaux, qui vont dire « non, on va pas le tuer, on va juste le vendre comme esclave et on va faire croire qu'il est mort ». Et donc Joseph, il est attiré par ses frères, et puis il est dépouillé, on lui prend tout ce qu'il a, on le laisse pour mort, et puis on le vend à des marchands qui partent en Égypte. Et on va voir son papa, et ses frères disent, ben voilà, notre frère, ben il a été mangé par une bête sauvage, il est mort. Et Joseph, voilà, il est esclave, il arrive en Égypte, et il se fait acheter par un des plus grands intendants du pharaon d'Égypte, qui s'appelle Potiphar, qui est un homme riche, puissant, qui a plein de biens, qui achète Joseph et qui le met dans sa maison comme serviteur. Sauf que Joseph est quelqu'un qui marche avec Dieu, et de fil en aiguille, le maître de Joseph va voir qu'il y a quelque chose de particulier sur ce jeune homme, et il va lui confier de plus en plus de choses parce qu'il voit que tout ce qu'il confie à Joseph, ça réussit. Parce que Dieu est avec Joseph et fait réussir ce qu'il fait. Alors que tout va bien, alors que Joseph est dans la maison de son maître qui gère tout, qui est aux commandes de tout, on arrive à ce passage dans Genèse 39, versets 7 à 21. Je vais juste changer de tac. Ou je vais le lire là. Après cela, la femme de son maître, donc la femme du maître Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison ». Il m'a confié tous ses biens, personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ? Elle parlait tous les jours à Joseph, il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et là, il n'y avait aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour nous abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi. Mais j'ai poussé des grands cris et il a entendu que je me mettais à crier. Il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre dans la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. » Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Donc on a Joseph qui est tranquillement à faire ce que Dieu lui demande de manière intègre et la femme de son maître qui veut coucher avec lui, lui par intégrité il va refuser jusqu'à ce qu'un jour elle dise un mensonge sur lui, elle calomnie et puis qu'il se retrouve en prison pour quelque chose qu'il a pas fait. Et si l'intégrité c'est quelque chose qui est important au point où il y a plusieurs textes de la Bible comme celui-ci qui nous en parlent ou qui nous sont des exemples pour nous, on peut se demander pourquoi est-ce que je voudrais marcher dans l'intégrité, à quoi ça sert de marcher dans l'intégrité. Et je vais vous proposer plusieurs points. Le premier, c'est marche dans l'intégrité pour toi. Marche dans l'intégrité pour toi pour construire une vie solide. Tout ce que tu construis avec intégrité, ça reste et ça va durer. Tout ce que tu construis sans l'intégrité, ça va s'écrouler un jour ou l'autre. C'est très intéressant parce que quand je regardais les fois où le mot intégrité, en hébreu, il était utilisé dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, c'est dans le Lévitique ou dans Nombre, et il parle des sacrifices des agneaux qui sont sacrifiés, et quand on dit qu'ils sont sans défaut, c'est le même mot que pour intègre, ils sont parfaits. Et ce mot-là, il est utilisé pour définir ces sacrifices, et on sait que Jésus, quand il vient, il accomplit, ça c'était une image, et Jésus, il vient, c'est le vrai sacrifice. Jésus, ça veut dire qu'il est l'intégrité à 100%, et c'est ce qu'il y a dans son caractère. Et en tant que chrétien, on est appelé à bâtir nos vies sur Jésus, et bâtir nos vies sur Jésus, la vie chrétienne, c'est bâtir sur l'intégrité, à 100%. Et une vie intègre, c'est une vie avec des fondations solides. Et ouais, qu'on puisse ne pas économiser sur les fondements de notre vie chrétienne, pas chercher la facilité pour le fondement de nos vies, parce que c'est tellement important, et pas chercher de raccourcis quand il s'agit de fondements. Le deuxième chose, c'est marcher dans l'intégrité, sur le chemin de l'intégrité, pour attirer le regard et la faveur de Dieu. Tout le monde a oublié Joseph. Il est dans la prison. Il était entouré, il avait un poste, et là, il se retrouve tout seul. Mais il y en a un qui n'a pas oublié Joseph, c'est Dieu. Le dernier verset qu'on a lu, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Dans le naturel, Joseph, il est où ? Il est dans la prison, derrière les barreaux. Et spirituellement, il est sur le sentier de l'intégrité avec Dieu. Il marche avec Dieu. Et on a un exemple qui me frappe, comme quoi l'intégrité, ça attire vraiment le regard de Dieu. C'est une des premières actions de Jésus dans l'évangile de Jean. Il va rencontrer un gars qui s'appelle Nathanaël. Nathanaël, il connaît pas Jésus, mais il a un très bon pote à lui qui s'appelle Philippe. Et Philippe, il lui dit, Nathanaël, il faut que je te présente quelqu'un, il s'appelle Jésus, il est incroyable. Il présente, Jésus voit Nathanaël et il dit, Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture, un homme intègre. D'où me connais-tu ? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. L'intégrité attire le regard de Jésus sur nos vies. Et Jésus n'a jamais dit dans les évangiles, voici un homme qui sait bien prêcher. Voici un homme qui fait des miracles. Voici un homme qui dirige bien la louange. Voici quelqu'un qui a des bonnes œuvres. Mais il a dit à Nathanaël, voici quelqu'un d'une parfaite droiture, avec un cœur intègre. Psaume 84, 12, ce verset, il m'a tellement touché quand je l'ai trouvé. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. On peut aussi marcher dans le sentier de l'intégrité, dans le chemin de l'intégrité pour vivre dans la paix, la joie et la tranquillité de l'esprit. Et l'intégrité attire le regard de Dieu. Quand on est sur le chemin de l'intégrité, en fait, on est avec Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas sortir de ce chemin-là. Il est sur le chemin de l'intégrité et il ne peut pas sortir du chemin. Et quand on marche sur ce chemin-là, on est proche de lui. Et dans ce chemin, quand on est sur cette route, si on marche avec lui, Dieu, il donne sa paix, sa force et sa sécurité pour avancer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi non, mais j'ai déjà imaginé la situation. Si demain, t'es à la frontière, t'es à la douane, et que tu transportes dans ta voiture 1 kg de cocaïne, comment tu vas te sentir les 24 heures avant de passer la douane ? Tu vas pas dormir, tu vas réfléchir, tu vas stresser. Quand tu vas baisser la vitre devant le douanier, tu vas avoir la grosse goutte qui tombe là et tu vas pas être bien. Et quand il va te parler, tu vas essayer d'être le plus naturel possible. Mais eux, ils sont habitués à voir les gens qui mentent et ils vont vite voir sur ta tête qu'il y a quelque chose qui va pas. Par contre, demain, si tu passes la douane et tu sais que tu n'as rien à te reprocher, tu te fais arrêter, ils te disent ouvrez le coffre, ouvrez. T'es en paix. T'es en paix. Et marcher dans l'intégrité avec rien qui t'as sur la conscience, etc. Quand ta conscience et le Saint-Esprit n'ont rien à te dire, n'ont rien à te reprocher, t'es dans la paix. Et ça, c'est trop beau. Donc marcher dans l'intégrité, ça te libère, ça te donne d'avancer dans la vie avec une paix, une joie, une tranquillité d'esprit. Psaume 119, 1. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. La Bible, elle nous dit heureux ceux qui sont intègres. C'est l'intégrité, elle te donne le bonheur. Et le bonheur, c'est pas le plaisir. Moi, pendant des années, avant de venir à Jésus, c'est un des premiers trucs qui m'a montré, parce que ma conception, elle n'était pas alignée là-dessus, c'est que je pensais que le bonheur, c'était une accumulation de plaisir. Tu prends un gros pot, tu mets plein de plaisir, tu vis ta vie, tu te fais plaisir au maximum, et à la fin, tu seras heureux. En fait, le bonheur, c'est pas le plaisir. Des fois, pour avoir le bonheur, il faut choisir sur le moment de faire un truc qui ne nous fait pas plaisir. Parce que le bonheur, ça se construit. C'est comme quand tu fais une maison. Si quand tu es dans un chantier de maison, à tout moment, tu te dis, tous mes choix, je fais tout ce qui me fait plaisir. Donc, au lieu d'aller remonter tes manches, faire du béton sous 40 degrés, tu vas te poser avec ton verre de coca et tu vas attendre que ta maison, elle se construise. Et ça te fait plaisir sur le coup, mais au final, sur le long terme, tu n'auras pas de maison et tu ne seras pas en sécurité. Et vraiment, de se dire que l'intégrité, elle nous conduit vers le bonheur, mais l'intégrité, elle ne fait pas toujours plaisir. La deuxième chose pour laquelle on peut marcher dans l'intégrité, je l'ai appelé « marche sur le chemin de l'intégrité pour les autres ». On a vu pour nous, mais aussi pour les autres. Choisir une vie intègre, elle fait du bien autour de nous, par définition. De façon naturelle, quand tu choisis de marcher dans l'intégrité, tu honores, tu protèges, tu bénis, tu considères, tu aimes, tu ne fais pas de mal aux autres, etc. etc. Tu fais des actions qui vont bénir les autres. En restant intègre, Joseph, il a honoré et il a béni son maître. S'il avait pris sa femme, si sa femme avait trompé son mari avec Joseph, Joseph, il aurait comme planté un couteau dans le cœur de son maître. Mais en restant intègre, il l'a béni et il a produit, il a infusé comme quelque chose de bon autour de lui. Et par exemple, quand on est intègre dans notre travail, quand on choisit d'être droit, qu'on refuse le vol, le mensonge, l'escroquerie, etc., en fait, on bénit ses collègues, on bénit son employeur, on bénit ses clients. Pareil dans la famille, etc. Quand je choisis d'être intègre, ça fait du bien autour de moi. La deuxième chose pour laquelle on peut marcher dans le sentier de l'intégrité pour les autres, c'est pour nos enfants et notre descendance. J'aime trop ce verset. Proverbe 27. Le juste vit de façon intègre. Heureux sont ses enfants après lui. Je suis peut-être un peu jeune pour me poser cette question, mais elle me concerne aussi et je pense qu'elle nous concerne tous parce que c'est dommage de se la poser quand on a 90 ans. Qu'est-ce que je vais laisser à la génération après moi? Qu'est-ce que je vais laisser en héritage quand je serai plus là? Une belle maison? De l'argent? Des terrains? C'est bien. Mais je crois que le plus précieux qu'on peut laisser aux gens derrière nous, à nos enfants, nos petits-enfants, à ceux qui nous regardent, avec l'intégrité, premièrement, c'est un modèle de vie intègre qui sera comme un repère pour eux et la bénédiction qui est liée à notre intégrité qui coule sur eux. Et ça, c'est plus durable que l'argent et les maisons. Et vous connaissez sûrement, je pense, si vous cherchez au fond de vos cœurs des gens, des modèles, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église, etc., des hommes et des femmes intègres qui sont peut-être plus là aujourd'hui, mais des années après, on parle encore d'eux, ils sont comme des modèles et ils sont comme des... On les prend pour exemple, et ça c'est la bénédiction de l'intégrité. Moi j'ai un arrière-grand-père qui, pas dans tout ce qu'il a fait, mais dans une partie de sa vie, a marché dans l'intégrité, et je sais que ça a façonné le comportement et le caractère de ma grand-mère et de mon papa, et pour moi aussi, et je suis au bénéfice de ça, d'avoir des hommes et des femmes qui ont marché dans l'intégrité, et de voir le fruit que ça porte. Marcher dans l'intégrité pour les autres, pour ses enfants et pour sa descendance. Et on peut aussi marcher dans l'intégrité pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. 1 Pierre 2,12, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient, là où ils vous insultent, là où ils ne vous comprennent pas, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. On est tellement dans une société qui ne valorise pas l'intégrité, ça nous encourage à prendre ce qui, tant que ça nous arrange, on prend des raccourcis, on cache, on ment, on vole. Tant qu'on ne se fait pas attraper, c'est OK. Après, si on se fait attraper, police, machin, etc. Mais dans notre société, tant qu'il n'y a pas de souci, tant que les autres ne sont pas au courant, tant que c'est petit, tant que c'est des petits compromis, il n'y a aucun souci. Mais la vraie intégrité aujourd'hui, elle est tellement rare, même dans les petits détails, que quand on la manifeste, c'est un témoignage puissant pour les gens qui nous entourent. Ça parle plus que des mots, ça marque la différence, ça interroge, ça intrigue. Les gens se posent des questions. Mais pourquoi t'es comme ça ? Vas-y, c'est rien, fais-le. Non. Et ça, c'est un témoignage qui est vraiment puissant pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ça intrigue et ça marque une différence tellement l'intégrité est rare aujourd'hui dans notre société. Et être intègre aussi pour les autres, j'avais vraiment à cœur d'encourager quelqu'un par rapport à ton travail. C'est comme si tu as une position d'autorité et tu dois prendre des choix comme des jugements, des choses à trancher. Et c'est comme si le Seigneur, il veut t'encourager à prendre des jugements et des choix qui soient intègres vis-à-vis des autres. Et j'entendais aussi pendant la louange, c'était Seigneur, il voulait encourager quelqu'un à l'intégrité par rapport à une garde d'enfant. Et j'entendais le mot tutelle très fort dans mon cœur. Si ça te parle, le Seigneur, il veut juste t'encourager à te poser devant lui et dire comment je peux être intègre dans cette situation. Comment je peux manifester l'intégrité pour les autres et dans cette situation de parents-enfants qui est compliquée. La troisième chose pour laquelle on peut et on veut marcher dans l'intégrité, c'est marcher sur le chemin de l'intégrité pour Dieu. Premièrement, pour honorer son cœur, Joseph, il dit à la femme qui veut coucher avec lui, « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Et Dieu, souvent on a cette image-là, et quand on parle de tout ce qui touche à la partie morale de nos vies, qu'il est lointain, il prend des notes, il regarde nos vies, il a son petit carnet, et il dit, ben voilà, Germain, il a fait ci, il a fait ça, et puis il prend des notes sur mon intégrité. Et puis à la fin, quand je le verrai, il sortira son carnet et on fera le point ensemble. Et ça, c'est l'image de Dieu qui est loin, en mode juge, mais c'est pas la réalité, elle n'est pas tout à fait là. Parce que Dieu, c'est un papa dans la personne du Père, c'est un grand frère dans la personne de Jésus, c'est un consolateur, un défenseur dans la personne du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est proche. Et en fait, Dieu, il a un cœur et des émotions. Et j'ai tellement tendance à l'oublier. Cette semaine, le Saint-Esprit m'a dit « Sois bienveillant avec moi ». Moi, je disais « Mais t'as pas besoin ». Mais le Saint-Esprit, il a un cœur, il ressent les émotions. Et l'intégrité, c'est pas juste un devoir moral, mais ça vient juste de l'alliance et de la relation qu'on a avec Dieu. C'est là qu'elle prend racine. Et si on veut, si on a une relation avec Jésus, avec Dieu, mon intégrité, elle le concerne, parce qu'elle concerne notre relation, lui et moi. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Éphésiens 4, 30, ne faites pas de la peine au Saint-Esprit. Saint-Esprit, il ressent, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ouais, quelques petits exemples. Au tout début de ma vie chrétienne, parce qu'avant, bien sûr, je ne connaissais pas Dieu et le Saint-Esprit n'habitait pas en moi. Bien sûr, ma conscience me disait des choses. Mais il y a quelque chose de différent quand tu deviens chrétien, c'est que ta conscience te parle, mais l'Esprit de Dieu habite en toi et il te parle aussi. Et tu peux ressentir ses émotions. Et la première fois où j'ai pas marché dans l'intégrité au début de ma vie chrétienne, et cet exemple il est anodin, mais je le trouvais important, je vous le partage, c'est que les premières semaines après m'être converti, moi je me suis converti dans un groupe scout, et un des responsables était aussi responsable dans une église, et il m'a proposé de faire ce qu'il appelait un parcours de foi, donc on se retrouvait toutes les deux semaines pour ouvrir la Bible ensemble, voir ce qu'était la Bible. J'avais aucune connaissance de qui était Dieu. Et voilà, toutes les deux semaines, on se retrouvait, on ouvrait la Bible. Et il m'avait dit, est-ce que t'en as parlé à tes parents que tu fais ça? Moi, je lui avais dit oui. Et j'en ai jamais parlé à mes parents parce que j'avais trop peur de leur en parler. Et on fait 3-4 fois. Et puis, au bout de quelques mois, on est au scout dans une réunion, dans une veillée où on est 100% sur Dieu. La présence de Dieu est tellement forte ce soir-là. Et j'ai une peine qui vient dans mon cœur. Et je dois tellement demander pardon, et j'ai la peine de l'esprit qui me dit, mais juste ce petit mensonge, ça me rend triste. Et ce qui m'a touché, c'est que c'est un mensonge sans conséquence. Bon, en fait, on s'en fichait que mes parents soient au courant ou pas. Mais en fait, le Saint-Esprit, lui, il s'en fichait pas. Et que ce soit les petits comme les grands mensonges, ça le touche tout autant. Et il est tout autant triste. Et ce qui est trop beau, c'est quand j'ai demandé pardon, j'ai mis en lumière, je lui ai dit, mais voilà, en fait, je t'ai menti, j'ai pas dit à mes parents. Il y a une joie, il y a une paix qui est venue, c'est magnifique. Et la joie du Saint-Esprit aussi. Il y en a peut-être qui sont encore au lycée ou qui font encore des études. Et moi, ma troisième et ma seconde, c'était la norme avec tous mes potes. Dès qu'il y avait un contrôle, on révisait un peu, mais voilà, on prenait toujours le téléphone sous la table, le cahier. Voilà, c'était la triche classique. C'est ça. Et quand je suis devenu chrétien, j'avais vraiment de la gêne par rapport à ça, et j'ai décidé d'arrêter de tricher. Mais j'ai pas appris pour autant à réviser avant. Du coup, j'étais dans ce dilemme-là de me dire qu'est-ce que je fais. Et je me rappellerai toujours de ce moment en classe, je pense que c'était en maths, où j'ai dit, Seigneur, je vais pas tricher. Et peut-être que j'avais une note pourrie ce jour-là, mais j'étais tellement plus heureux d'avoir marché dans l'intégrité plutôt que d'avoir un 18 sur 20. Et ça a pas de prix. Et en fait, quand on marche dans l'intégrité, on sent la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit qui est là aussi. Ça fait tellement du bien. Marcher dans l'intégrité pour Dieu, pour mieux le connaître. En fait, le manque d'intégrité, c'est comme un plafond dans notre relation avec Dieu. Nathanaël, on a vu que, avec le premier point, que l'intégrité, elle nous donne d'être vu par Dieu. Dieu nous voit, ça attire son regard, mais en marchant dans l'intégrité, ça nous permet, nous, de voir Dieu. Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont intègres, car ils verront Dieu. C'est dans les deux sens. Je me suis noté cette petite phrase, on a besoin de la foi pour voir la gloire de Dieu. Tu veux voir des miracles, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir des situations qui changent, tu as besoin d'avoir la foi. On a besoin de la foi pour voir la gloire de Dieu, mais on a besoin de l'intégrité et d'un cœur pur pour voir Dieu. Si on veut voir son cœur, si on veut être proche de lui, on a besoin de l'intégrité. Et la troisième chose pour laquelle on marche sur le chemin de l'intégrité pour Dieu, c'est pour investir dans l'éternité. Psaume 37, 18, l'Éternel connaît tous les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. C'est-à-dire que quand tu ne seras plus sur la terre, quand ta maison elle aura disparu, quand il n'y aura plus rien, ben l'héritage de ton intégrité, il sera toujours dans le ciel. Il n'y a personne qui pourra le voler. Ni le temps, ni les gens, personne. Notre intégrité, c'est vraiment un héritage pour l'éternité. Et moi, ça m'excite vraiment de penser à ça. Dire qu'un jour, je serai avec Dieu et de pouvoir déjà investir dans ça. Et voilà, le fait de travailler pour ses propres intérêts, on récolte un héritage passager. Mais quand on travaille à notre intégrité, on récolte un héritage qui est éternel et qui est bien plus grand. Un truc qui est perturbant avec l'intégrité, c'est que l'intégrité, quatrième point, elle se voit pas. Ouais, des fois, on peut voir des gens qui sont pas intègres par leur conduite. Ils trompent sa femme, ils fraudent, ils font des arnaques, etc. Ça peut se voir dans la vie des gens, mais la plupart du temps, on peut avoir l'air d'un homme, d'une femme intègre, alors qu'au fond du cœur, on l'est pas. Et comment on sait s'il y a de l'intégrité? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Dieu seul sait, Dieu seul reconnaît l'intégrité. Là, je vous parle, mais c'est vrai pour moi ce matin. Il n'y a que Dieu qui sait où j'étais hier. Il n'y a que Dieu qui sait ce que j'ai fait les trois dernières semaines. Quand j'ai dit ce qu'il fallait dire, quand je n'ai pas dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et quand j'ai mal agi. Et il n'y a que Dieu seul qui connaît l'état de nos cœurs et de l'intégrité. Je trouve ça trop beau. J'ai l'impression que Dieu, il est intéressé par les choses qui ne se voient pas. De manière générale, quand on lit la Bible, plus que par les choses qui se voient. Et quand je vous regarde, il y a quelque chose que je ne peux pas voir. Je vois vos visages, je vois vos mains, je vois vos pieds, mais il y a quelque chose que je ne vois pas, c'est vos cœurs. Et Dieu, il est très intéressé par nos cœurs. Et c'est comme si nous, on voit le devant de la scène. Là, vous me voyez là, mais en fait, on voit le devant de la scène, mais on ne voit jamais les coulisses ou ce qu'il y a derrière le rideau de la vie des gens. Mais Dieu, il est à la fois devant et il est à la fois derrière. Il voit tout. Et l'intégrité ne se voit pas, et des fois, elle ne se voit pas tout de suite. Luc 12, 3, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, tout ce qui est caché finira par être connu. Et peut-être dans vos cœurs, là, vous pensez soit à des bonnes choses, soit à des mauvaises choses, mais c'est vrai pour les deux, pour les bonnes choses. Quand on marche dans l'intégrité, qu'il n'y a personne qui voit, quand on prend des décisions où il n'y a personne pour applaudir, Dieu y voit. Et ça sera mis en lumière un jour. Et pareil, quand on cache des choses, quand on marche dans le mensonge, la tromperie, ça sera mis en lumière un jour. Peut-être dans cette vie, peut-être dans l'éternité, mais ça finira toujours par ressortir. Et ouais, ce qui dirige vraiment nos cœurs, au fond, là où personne ne voit, ça finit toujours par devenir notre témoignage aux yeux des autres, de manière publique. Joseph, ce détail m'a marqué. Au verset 11, un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Et là, il n'y avait aucun des gens de la maison. Donc la femme, c'est pas la première fois où elle vient pour lui demander, mais là, quand elle vient, la Bible nous dit qu'il n'y avait personne. Il n'y avait que lui et elle. Joseph, il aurait pu coucher avec elle et personne ne l'aurait su. Joseph, il a choisi d'être intègre quand il n'y a personne qui le voyait. Quand il n'y avait personne pour le regarder, personne pour l'applaudir. Mais Joseph savait que Dieu le voyait. Et c'est ce qu'il dit au verset 9. « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Et ce qui est trop beau, c'est qu'il n'y avait personne dans cette pièce-là à part lui et la femme. Et nous, des milliers d'années après, on en parle. C'est-à-dire que Dieu a vu et Dieu l'a mis dans la Bible pour que Joseph soit un exemple pour nous. C'est incroyable. Il n'y avait personne. C'était un truc isolé de... Il y a des milliers d'années, dans une partie de la Terre, on ne devrait même pas être au courant. Mais comme Dieu a vu, Dieu a utilisé ça comme un exemple et aujourd'hui, on parle de Joseph. Et ça m'a vraiment touché. Et la partie peut-être la plus concrète pour nous, pour nos vies, de ce message, la slide d'après, c'est comment marcher sur le chemin de l'intégrité. On a défini un peu ce que c'était l'intégrité. Pourquoi marcher dans l'intégrité? Pour nous, pour les autres, pour Dieu. Mais comment on y marche dans le chemin de l'intégrité? C'est pas toujours évident. Et puis des fois, on a l'impression d'y être, et puis on regarde, on fait des points sur nos vies, on se dit purée, ben en fait, je m'en suis écarté. Et ça faisait déjà bien un bon moment que je marchais plus dessus. Et je crois que juste aujourd'hui, le Seigneur, il veut juste nous encourager à le rejoindre sur ce chemin. Et c'est trop bien parce qu'il nous a pas dit, voilà, je vous montre ce que c'est, comment il faut faire, et puis débrouillez-vous. Le Seigneur, il nous a vraiment donné de pouvoir réaliser de marcher sur ce chemin-là. Et la première chose pour marcher sur le chemin de l'intégrité, c'est être équipé. J'imagine que si je vous fais lever les mains, je ne vais pas le faire. Qui est déjà parti en randonnée en maillot de bain? Il n'y a personne qui va me lever la main. Parce que quand on part en rando, on part équipé. On se prépare. Et Dieu, il nous équipe pour la marche sur le chemin de l'intégrité. Et Dieu, il nous donne deux choses pour marcher dans l'intégrité. Et la première... C'est la Bible. Non, c'est une carte. Mais c'est comme sur ce chemin, le Seigneur nous a donné une Bible, et la Bible, c'est comme la carte avec laquelle tu avances sur le chemin de l'intégrité. La carte, elle fait quoi? Elle te donne les grandes directions, comme la Bible. Quand tu es à une intersection, tu vois deux chemins devant toi, tu ne sais pas où ils vont. Pour regarder leur destination, tu prends la carte. Où est-ce que ça va me mener? Quand il y a des trucs sur le chemin que tu croises et tu sais pas ce que c'est, dans les cartes, il y a toujours, je sais pas si vous voyez, bon, j'ai fait les scouts, hein. Il y a une petite légende avec des petits pictogrammes. Et en fait, ça te donne une définition de ce qu'il y a autour de toi. Et quand tu es sur le chemin de l'intégrité, que tu croises des choses que tu comprends pas, tu peux aller dans la Bible et tu peux comprendre ce que tu es en train de croiser. Sauf que, bon, ceux qui ont jamais fait de topographie, on peut se dire la carte, c'est suffisant. Mais avec la carte, tu peux avoir toutes les bonnes infos. Le seul danger, c'est que tu la prends à l'envers. Et donc, au lieu de partir plein nord, tu pars plein sud. Et une carte toute seule, sans boussole, c'est très compliqué. La boussole, elle a une seule utilité en topographie, c'est d'orienter la carte. C'est de prendre la carte dans le bon sens, c'est de comprendre la carte, de la mettre en relation avec ce qu'il y a autour de nous. C'est comme le lien entre la carte et ce qu'on a autour de nos yeux. C'est pouvoir mettre la carte dans le bon sens, dans notre réalité, et de qu'elle soit actualisée pour nos vies. Et cette boussole-là, ça s'appelle le Saint-Esprit. Ouais, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est ça qui nous permet de marcher dans l'intégrité. Si on a vu que l'intégrité, c'était de vivre selon ce que Dieu nous dit, alors sans la Bible et sans l'aide du Saint-Esprit, ça va être très très difficile de marcher sur le chemin de l'intégrité et d'y rester. On a tellement besoin du Seigneur et je prie, Seigneur, que tu viennes juste dans nos cœurs pour nous montrer à quel point on a besoin de l'intégrité et que ça puisse commencer dans nos cœurs et que ça puisse diffuser autour de nous. Merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint qui repose maintenant sur chaque personne au nom de Jésus. La deuxième chose pour marcher dans le chemin de l'intégrité, c'est se positionner maintenant. Peut-être s'arrêter dans nos vies et dire, regarder la carte et dire où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux arriver dans ma vie et par quel chemin j'y vais. Avoir un plan de route, une direction de vie décidée. C'est beaucoup plus facile de choisir la bonne direction quand on arrive à un croisement, quand on a déjà prévu l'itinéraire sur la carte. Par contre, si tu arrives au croisement et que tu sais, tu n'avais pas prévu, là, tu as un gros doute. Droite, gauche. Et se positionner dès maintenant, se positionner maintenant dans un choix de dire « je veux marcher dans l'intégrité », ça sera beaucoup plus facile quand les choix seront devant nous de dire « est-ce que je prends le chemin ou est-ce que je en prends un autre ?» Notre intégrité de demain, elle s'enracine dans les résolutions fermes et les choix qu'on prend maintenant, pour les mois et les années à venir. Et je me suis posé la question, mais est-ce que c'était le cas de Joseph? Est-ce que Joseph, il a commencé à être intègre quand il était en Égypte? Est-ce qu'il a commencé à être intègre quand la femme elle a demandé de coucher avec lui? Et on n'a pas énormément d'éléments sur la vie de Joseph, et je crois que ce qui est trop beau avec la Bible, que j'ai compris au fur et à mesure des années, c'est qu'il n'y a aucun détail dans la Bible qui ne sert à rien. Même les trucs où on ne comprend rien, les virgules, les machins. Tout est calculé. Et quand on nous dit quelque chose, c'est qu'on aurait pu dire des milliers de choses sur la vie de Joseph, mais on nous rapporte une seule chose sur son enfance ou quand il est jeune. Genèse 37, 2, deux chapitres avant. Voici l'histoire de la famille de Jacob, donc le papa de Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et Zilpa, donc ses deux belles-mères, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. On peut croire que Joseph, il était en mode balance, ouais. Mais je crois que Joseph, il avait choisi l'intégrité dès le début. Dès qu'il y avait des choses qui n'étaient pas intègres, Joseph, il allait le mettre en lumière. Et je crois que c'est parce que Joseph, de 17 ans, a pris cette décision de marcher dans l'intégrité, que quand la femme est venue, elle a persisté, Joseph, il a choisi de rester sur le chemin. La troisième chose pour marcher sur le chemin de l'intégrité, c'est être dirigé par Dieu et pas par les circonstances. Les épreuves, elles révèlent vraiment si on marche sur le chemin et comment on se comporte. Et sur le chemin de l'intégrité, il y a du mauvais temps qui peut venir. Tu peux être en rando, tu es sur le chemin, tu as ton itinéraire, tu sais où tu vas, et là, il y a un orage. Et du coup, on est tenté de quitter le chemin, de changer de route ou de se mettre à l'abri pour éviter la pluie. Mais marcher sur le chemin de l'intégrité, c'est être prêt à affronter les tempêtes que l'on pourrait éviter si on prenait un autre chemin. Dieu, il ne va pas arrêter la tempête, mais il t'a donné un caouet sur le chemin de l'intégrité. Et il le met sur tes épaules. Et tu marches et tu es couvert. Donc la pluie, tu la prends, mais il te protège sur le chemin de l'intégrité. Ça, c'est quand la tempête, elle vient. Est-ce que quand les finances, c'est chaud, est-ce que je choisis de faire un peu au black, de ne pas déclarer? Quelqu'un m'accuse à tort dans ma famille, au travail. Est-ce que je mens à mon tour? Je me venge? Je salis sa réputation? Ou est-ce que je choisis de marcher dans l'intégrité? L'intégrité, elle est testée quand la tempête vient, mais elle est aussi testée quand il y a du grand soleil pendant plusieurs jours sur le chemin de l'intégrité. Quand tout va bien, on a souvent un peu cet excès de confiance, puis on se dit bon, on pourrait tenter des nouveaux trucs, et puis on se lasse du chemin sur lequel on marche. Bah, ça fait 3 jours, je tenterai un truc un peu plus fun. Et puis on commence à marcher les yeux fermés, parce qu'on a l'habitude de marcher sur le chemin, parce que tout va bien. Ça, c'est aussi dangereux. Et c'est quand tout allait bien pour Joseph qu'il a été testé dans son intégrité, c'est pas quand il y avait la tempête. Et quand il y a des choses qui sont bonnes, où on est en sécurité, est-ce qu'on marche aussi dans l'intégrité? Quand on est tout seul derrière nos écrans, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on est toujours intègre dans les mots qu'on donne? Est-ce qu'on se fait passer pour quelqu'un d'autre? Est-ce que quand on reçoit de l'argent par erreur, bon, moi, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé une fois, un virement, est-ce qu'on le rend à la personne? Ou est-ce que quand on nous donne un peu plus de monnaie, on le garde pour nous sans rien dire? Ou est-ce qu'on marche dans l'intégrité? Et ouais, être vigilant de se dire que les circonstances, elles peuvent être bonnes ou favorables. Et ça va nous challenger dans les deux cas à continuer à marcher sur ce chemin-là. Pas de compromis avec les compromis. Les compromis sur le chemin de l'intégrité, c'est comme des raccourcis. T'as des petits raccourcis sur le chemin. Et puis des fois, ils sont tout petits. Donc tu vois le début du raccourci, tu vois aussi la fin. Donc tu te dis, bah, je peux pas me perdre. Voilà, il y a le chemin, juste passer là, j'enjamber là et je vais revenir. Et mais le truc, c'est que souvent, un compromis appelle un autre compromis. Tu es sur un raccourci, puis du coup, tu vas découvrir un autre chemin, un autre raccourci, et puis c'est l'escalade. On peut essayer un raccourci une fois, on se dit, bah voilà, tout va bien. Et puis c'est de plus en plus risqué. Et c'est comme si quand on tolère un petit compromis, il appelle son cousin compromis, puis toute la famille, et puis après on est complètement dedans. Donc être radical avec les petits compromis. Le dernier point, c'est être prêt à payer le prix de l'intégrité. Il y a quelques semaines, souvent pour mes anniversaires, ma grand-mère, que j'adore, qui habite en Bretagne, donc loin, elle me fait des colis. Elle aime bien cuisiner, elle me fait des petits pots, des conserves. Donc là, elle m'envoie des châtaignes, des rillettes de maquereau, je me régale, etc. Et donc elle m'envoie des colis, et puis je vais chercher le colis au Mondial Relais. C'était le dernier jour pour le récupérer. Et je rentre à la maison, j'ouvre le colis, et je vois que c'est un carton dans un carton. Je me dis, bon, rien d'alarmant, c'est ma grand-mère, c'est la reine du cellophane, elle emballe tout, elle met 3 couches, du journal, machin et tout. Sauf que j'ouvre dans le carton, et je vois un autre carton avec marqué Louis Vuitton. Et je me dis, mamie devait avoir une boîte qui traîne au fond de son garage. Ben, je ne savais pas qu'elle mettait du Louis Vuitton, ça m'étonne. Et elle a mis des rillettes de maquereau dedans. Bon, certes, j'ouvre la boîte et il y a un sac Louis Vuitton. Et c'est bizarre. Et je regarde l'étiquette du paquet et c'était pas mon paquet. Au Mondial Relais, ils m'ont donné le mauvais paquet. Et donc j'appelle ma grand-mère un peu... moi, ça me fait un peu rire, quoi. Et puis je lui dis, je savais pas que tu transformais... Les colis de nourriture en sac de luxe, t'as un super talent, faudrait qu'on l'utilise. Et là, ça l'a pas du tout fait rire. En fait, moi, ça, c'est peut-être un témoignage qui est tout bête, mais ma grand-mère, c'est quelqu'un qui compte pour moi. Et depuis plusieurs temps, elle envoyait des colis régulièrement. Et c'est pas la première fois que Mondial Relais lui faisait des histoires de trucs où ça marche pas. Et puis, je pense qu'elle était un peu fatiguée. Et puis, elle s'est mise en colère. Elle était au bout de sa vie. Elle commençait à pleurer, comme elle en avait marre, quoi, que ses colis arrivent pas et qu'à chaque fois elle paye. Et puis voilà. Et elle me dit, Germain, tu vas faire un truc. Ce sac, tu vas le garder. On va le garder. Et puis moi, je vais appeler Mondial Relais et je vais faire pression sur eux. Je vais leur dire, tant que vous m'avez pas rendu le colis de mon petit-fils, on rend pas le sac Louis Vuitton. Et à ce moment-là, Saint-Esprit me dit, ce sac, demain, il est plus chez toi. Tu vas le rendre. Je le veux pas dans ta maison, il t'appartient pas. Et ma grand-mère qui commence à me dire, tu le rends pas. Je dis, si, je vais le rendre. Elle me dit, à la limite, compromis, à la limite, tu mets des livres dedans qui font le même poids et tu le rends. On n'y verra rien. Je lui ai dit non, c'est ça que je vais le rendre. Mais je vais aussi mettre des livres. Et j'ai mis une bip dedans. J'ai remis le colis le lendemain. Et au téléphone, elle m'a dit un truc qui m'a vraiment, ça m'a fait mal. Et je pense que, je ne sais pas si c'est sur l'émotion, je ne pensais pas qu'elle pourrait dire ça un jour. Elle m'a dit, si tu rends ce colis, je serai obligé de plus t'aimer. Ouais. Et sur le coup, ça m'a fait bizarre parce que j'ai jamais vu ma grand-mère dire un truc comme ça. Et quelques jours après, elle s'est excusée. Mais souvent, de marcher dans l'intégrité, ça vient nous chercher dans nos tripes et la pression, elle monte. Et là, c'est un petit exemple. Mais la Bible, elle nous donne des exemples qui sont plus forts. Il se peut que pour rester sur le chemin de l'intégrité, on va devoir payer le prix fort. Peut-être qu'on va perdre notre travail. Joseph, il est parti en prison injustement. Daniel, il a été condamné à mort. Il a été jeté dans une fosse avec des lions parce qu'il est resté intègre. Job, il a perdu son mariage. La relation, le soutien et la fidélité de sa femme. Job 2:9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Ta femme qui souhaite ta mort parce que tu restes intègre. La Bible, elle nous dit que Dieu, il est où ? Il est sur le chemin de l'intégrité. Et c'est là qu'on le rencontre. L'intégrité, ce n'est pas un chemin de succès immédiat. Des fois, ça se paye par de l'injustice, par de la solitude, par la perte de quelque chose, parfois par la mort. Mais Dieu, il voit, il approuve, et il promet une récompense qui dépasse les circonstances présentes. Et peut-être que la récompense de ton intégrité, ça sera le jour même, dans un mois, dans une année, dans 10 ans, dans l'éternité. Ouais, on a vu qu'on pouvait marcher sur le chemin de l'intégrité pour nous-mêmes, pour les autres qui sont autour de nous, pour nos enfants, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On pouvait le faire pour Dieu, pour son cœur, pour apprendre à le connaître. Que pour marcher dans ce chemin, on devait être équipé, on devait se positionner maintenant, on devait se laisser diriger par Dieu, pas faire de compromis et être prêt à payer le prix. Et peut-être que là, on a l'impression que ça vient nous chercher dans nos tripes et on a comme notre conscience qui vient nous mettre un quelque chose qui vient peser. Et le truc le plus important de mon message, je prie vraiment que l'intégrité, ça ne soit pas juste une valeur morale, qu'on ne le fasse pas par bon devoir, mais juste par amour et parce que ça vient nous chercher dans notre relation avec Dieu et que ça soit lui qui vienne faire naître cette intégrité dans nos cœurs. Et vraiment, on commande à tout esprit de religiosité, de culpabilité, de quitter les cœurs maintenant au nom de Jésus. La question que je me pose à moi, et peut-être qu'on peut se poser ensemble, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a toujours marché dans l'intégrité ? Moi, je ne serais pas là à lever la main. Quelqu'un qui est intègre, qui marche dans l'intégrité, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais fauté, qui chute jamais, mais c'est quelqu'un qui se relève et qui corrige ses fautes. Il demande pardon à Dieu. Et Dieu, il est fidèle. Et il est juste pour nous pardonner quand on lui demande pardon, au nom de Jésus. Et marcher dans l'intégrité, c'est demander pardon à ceux à qui on a fait du tort, ceux à qui on a menti, ceux à qui on a volé, ceux à qui on n'a pas dit la vérité. Ceux qui marchent dans l'intégrité, ils demandent pardon et ils réparent. Il y a cette notion dans la Bible qui est très présente dans la loi à l'époque du peuple d'Israël, quand quelqu'un avait volé quelque chose, il rendait ce qu'il avait volé et il rajoutait un pourcentage du prix en plus. Et c'était vraiment cette notion de dire, mais quand Dieu nous demande de demander pardon, il veut qu'on répare aussi dans la mesure du possible ce qu'on a cassé. Des fois, c'est pas possible. C'est des choses qui sont pas réparables. Et quand on peut, bah, le Seigneur, il nous encourage à réparer pour vraiment aller au bout de la chose. Et dans cette marche, du coup, on a le choix. Dieu, il est sur le chemin. En dehors de ce chemin, Dieu, il est pas là. Mais nous, on est libre de marcher où on veut. Est-ce qu'on prend des raccourcis inconnus? Est-ce qu'on prend un chemin dangereux? Ou est-ce qu'on reste sur le chemin proche de Dieu? Ça, c'est notre choix. Pour pas que ce message il reste juste là au niveau de nos têtes, mais qu'il puisse vraiment nous challenger de là où on est, et que le Saint-Esprit vienne l'actualiser à ce qu'on vit personnellement, la première chose qu'on peut faire, c'est de demander à Dieu où est-ce que j'ai manqué d'intégrité. Et lui demander pardon, et demander pardon s'il y a besoin à d'autres gens, et puis de réparer. Parce que comme on a dit, le manque d'intégrité, c'est un plafond dans notre relation avec Dieu. Mais ce n'est pas un plafond qui ne pourra jamais sauter. Ce n'est pas un plafond qui est trop dur. C'est un plafond qui, juste quand on plie le genou et qu'on dit « Seigneur, je veux revenir sur le chemin de l'intégrité », le plafond, il s'ouvre et on peut voir Dieu. Heureux ceux qui sont intègres parce qu'ils verront Dieu. On peut le voir et on peut être avec lui. Et s'il y a quelque chose qui nous bloque dans notre relation avec Dieu, qui est lié à ça, ben, je vous propose juste qu'on puisse fermer les yeux et demander « Jésus, toi qui me connais parfaitement, où est-ce que j'ai manqué d'intégrité? Montre-moi. » Et que je puisse te demander pardon et demander pardon. Ah, merci Seigneur, parce que tu pointes jamais du doigt pour mettre dans la honte, et tu nous montres les choses pour nous relever et pour nous restaurer. Et Seigneur, je ne suis pas meilleur que personne ici, et je veux juste moi te demander pardon pour les petits mensonges que je fais dans ma vie, ceux qui permettent d'éviter des discussions ou d'éviter des fois de dire la vérité ou des choses qui font mal par peur de rentrer dedans. Seigneur, je te demande pardon et je prie que tu changes mon cœur encore sur le mensonge. Seigneur, merci parce que tu montes dans nos cœurs à chacun où est-ce qu'on en est. Et on te demande pardon. Seigneur, on veut être proche de toi. On ne veut pas que ce soit des obstacles dans notre relation avec toi. Et on veut dire avec David, Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, le chemin de l'intégrité. Ce chemin qui est sûr pour toujours. Et la deuxième chose qu'on peut faire, avant ça, ça me faisait penser à une petite anecdote. Comme je vous ai dit, la première fois que j'ai utilisé une carte, c'était au scout. Et au scout, ce qu'on fait, c'est que des fois, on est en petit groupe de jeunes et qu'on part, à 5-6 avec une carte, un emplacement, et on doit camper à cet endroit-là. Et je me rappellerai d'un ami qui, un jour, était avec son petit groupe et il était perdu. Ils avaient beau tourner la carte dans tous les sens, prendre la boussole dans tous les sens, et ils ne savaient pas où ils étaient. Et ils avaient perdu le bon chemin. Et comme ils n'avaient rien d'autre à faire, ils ne pouvaient rien faire d'autre, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé les responsables. Ils leur ont dit, ben là, on ne sait pas où on est juste perdu, il faut nous aider. Et ils sont venus, les responsables, et ils les ont pris en voiture, ils les ont remis sur le bon chemin. Et si on ne sait pas où on est, on peut demander à Dieu de nous ramener près de lui sur le chemin de l'intégrité. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simple, c'est juste fermer les yeux et prendre ses regards, les fixer sur Jésus. On regarde Jésus, on le voit, il est sur ce chemin-là. Dans mon esprit, il y a Jésus. Et moi, où est-ce que je suis par rapport à lui? Est-ce que je le regarde de loin? Est-ce que je suis collé à sa poitrine? Est-ce que je prends sa main? Est-ce que je suis sur un raccourci à des kilomètres? Et juste de demander à Jésus de nous montrer dans notre esprit où est-ce qu'on est sur le chemin de l'intégrité avec lui. Et maintenant que tu vois où tu es avec Jésus, par rapport à lui, tu peux lui demander, si tu as envie, qu'il vienne te ramener sur ce chemin-là et qu'il t'équipe. Seigneur, fais-moi comprendre la Bible. Seigneur, éclaire la Bible pour moi, que je puisse marcher avec un modèle qui me guide. Seigneur, donne-moi la radicalité dont j'ai tellement besoin pour ne pas faire de compromis. Donne-moi la foi, le courage pour payer le prix. Mais donne-moi surtout un cœur qui voit qu'être à côté de toi, ça vaut tous les autres chemins. Et c'est comme si Jésus il dit, tu n'as aucune idée du chemin qui reste devant tes pieds pour arriver au bout. Mais tu peux être sûr d'une seule chose. Si tu es sur le chemin de l'intégrité, tu vas au bon endroit. Alors marche, je suis là, je te couvre, je mets mon manteau sur toi. Et Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton intégrité qui est comme une lumière dans ce monde, qui est comme un témoignage que tu veux venir placer sur chacun de nous. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viens maintenant mettre dans nos cœurs, Seigneur, ce feu pour une vie intègre et de comprendre que c'est tellement, qu'il y a tellement plus à gagner en marchant sur ce chemin, même s'il y a un prix à payer, que de marcher ailleurs. Et Seigneur, que tu viennes bénir, tu viennes oindre toutes les personnes qui vont être des témoins cet été, dans leur famille, auprès de leurs amis, dans leur travail, auprès de leurs voisins, que tu leur donnes d'avoir une conduite qui marque la différence. Saint-Esprit, merci parce que quand tu étais sur Jésus, il a marqué la différence. Merci parce que tu es venu sur lui. Merci Saint-Esprit parce que tu viens sur nous, tu nous oins de la même huile pour être intègre comme toi. Merci Jésus pour le modèle d'intégrité que tu es. Tu es 100% parfait, 100% intègre. On veut construire nos vies sur toi. Et je prie Seigneur maintenant que tu viennes actualiser dans nos vies tout ce que tu as mis sur mon cœur et que tu nous donnes, que tu me donnes Seigneur d'être encore fidèle et pas après pas sur ce chemin d'avancer choix après choix de choisir de rester proche de toi. Merci pour la puissance qui découle de l'intégrité. Merci parce que quand on marche dans l'intégrité, le monde spirituel sait qui on est, n'a pas de prise sur nous. On n'a pas de reproche devant toi, Seigneur. Et qu'on peut manifester ta puissance pour apporter l'amour, pour transformer autour de nous, pour apporter les valeurs de ton royaume. Et je prie, Saint-Esprit, que ton royaume vienne dans nos cœurs et qu'il se diffuse tout autour de nous pendant cet été et pendant les mois qui viennent. Merci pour les décisions aussi qui sont prises maintenant et qui vont avoir un impact dans le futur, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, dans 10 ans. Merci pour toutes les décisions qui sont prises dans ce lieu. Parce que je sais, Seigneur, et je te remercie d'avance qu'elles porteront du bon fruit et qu'elles seront un modèle. Et finalement, je veux prier pour tous les parents qui êtes là. Je veux vous bénir en tant que parents, je veux bénir vos enfants et je veux prier que vous soyez encore des modèles par l'intégrité pour eux. Que vous leur laissiez un héritage que le temps ne pourra pas voler, que l'ennemi ne pourra pas voler. Et que dans des années, peut-être quand vous serez plus là, ils se rappellent de votre bonne conduite et qu'eux-mêmes, ils marchent proche de Dieu dans l'intégrité. Merci pour les modèles que vous êtes. Et Seigneur, garde les parents, bénis-les. Et donne à chacun d'avoir des modèles d'intégrité autour de nous. Merci parce que tu es le modèle parfait et qu'on puisse te voir dans le cœur de telle personne être manifesté. Seigneur, merci pour juste ta présence sur chemin et parce que tu nous prends dans tes bras. On t'aime, Jésus, on veut juste te dire merci. Amen.